C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Les deux vieux et l'arbre de vie. Patrick Fishman, avec les belles illustrations de Martine Bourg, aux éditions Didier Jeunesse. Il y avait une clairière dans la forêt, et dans une cabane, un pépé et une mémé. Lui passait son temps à couper du bois, à observer les arbres et les oiseaux, à dessiner dans son grimoire des hiboux et des écureuils légers. Elle cueillait des baies, préparait des tisanes et des confitures. Quand le pépé s'absentait, elle aimait bien fouiner dans le grand livre du vieux. Et quand la mémé allait dans le bois, il trempait son doigt dans la confiture, ravi de chaparder un peu. Et le temps passait, avec la lune qui fait sa ronde. Un matin, le pépé vit une graine sous la table. « Mémé, dit-il, oh, mémé, ne balaye plus !» Trop contente, la mémé, elle abandonna volontiers la corvée du matin. Il y a des choses plus importantes, non ? Quelque temps après, elle dit au pépé, « Tu l'as vu sous la table ?»« Eh oui !» Un petit arbre avait poussé, et sa tête touchait déjà le plateau. « Oh, ben tant pis !» fit le pépé. « Tant pis !» répondit la vieille. « Fais ce qu'il faut, mon homme !» Le vieux fouilla dans la mée, sortit sa hache, s'approcha de l'arbrisseau et fendit la table en deux. À partir de ce jour, ils mangèrent sur leurs genoux. Bon, ce n'était pas si important. Ce qu'il était, c'était que l'arbre pousse. Et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. L'arbre se plaisait chez eux. Il avait grandi, sa tête toucha bientôt le plafond. « Oh, ben tant pis !» fit le pépé. « Oh, t'as raison !» répondit la vieille. « Ouais, fais ce qu'il faut, mon homme !» Le vieux fouilla dans la mée, sortit sa hache, monta sur l'échelle et fit sauter le plafond. L'arbre passa sa tête au-dessus de la cabane et il goûta au champ du monde. À partir de ce jour, il plut souvent sur la tête des deux vieux. Ils n'avaient plus de toit, plus de table, mais ce n'était pas si important. Ce qu'il était, c'était que l'arbre pousse. Et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. L'arbre avait la tête dans le ciel. Son tronc occupait presque toute la cabane. Un jour, la vieille dit au pépé, « Et regarde, le petit, il a la tête dans les nuages !» Sans tarder, ils montèrent tous les deux dans l'arbre, malgré leur douleur aux jambes. Ils démêlèrent la tignasse de leur fils de bois, remirent les nuages au ciel et regardèrent en bas. Ouh, la descente fut périlleuse. Mais ce n'était pas si important. Ce qu'il était, et le temps passa, avec la lune qui fait sa ronde. Le tronc de l'arbre prenait toute la place dans la cabane. Quand la mémé, un soir, contemplant le ciel, dit au pépé, « Regarde, il a la tête qui touche la croûte du ciel. » Alors, sans rien dire, Pépé a fermé son grand livre et Mémé a éteint le feu sous la confiture. Puis, ils ont commencé à grimper dans l'arbre, malgré leur douleur aux jambes. Ce fut long. pénible. Mais ce n'était pas important. Ce qu'il était... Ils arrivèrent dans la tignasse de leur fils de bois, parmi les étoiles. Le pépé sortit sa cuillère de son tablier. Le pépé prit sa hache dans sa ceinture. Et comme de vieux ouvriers, ils cassèrent en souriant la croûte du ciel. L'arbre est passé de l'autre côté par la boutonnière du ciel. Pépé et Mémé l'ont suivi. Ils ont trouvé une clairière dans la forêt des étoiles. Et ils vivent dans une cabane de lumière. Et ce matin, le pépé a aperçu une graine sous la table.
Les Jeux olympiques des insectes de Eugène Tom Tirabosco, les éditions La Joie de lire. C'est la course. Dans une heure débute la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Il y aura des artistes, des drapeaux, des feux d'artifice, des caméras de télévision. Et des sportives et des sportifs du monde entier, bien sûr. Hélas, un des cars est en retard, très en retard. Le chauffeur s'est trompé de route et roule en pleine campagne. À l'intérieur, les athlètes s'impatientent. « Oh, les JO, c'est tous les 4 ans » rouspète-t-il. « Et on va rater le début !» Un petit criquet passe par là, il s'appelle Max, et saute de buisson en buisson. Oh ! Le voilà qui passe par une des fenêtres ouvertes du car. Effrayé, l'insecte bondit dans tous les sens. Il se cogne contre les fauteuils, le plafond et les vitres. Ah, qu'il est ridicule avec ses petits sauts ! Rigole une championne de plongeon. Moi ? Ridicule ? Répond le criquet en posant 4 pattes sur ses hanches. Venez participer à nos Jeux olympiques et on verra bien. Les sportifs restent bouche bée. Non seulement ils n'ont jamais entendu un criquet parler, mais encore moins un criquet qui parle de Jeux olympiques. Alors, les petits minables, insiste Max, on y va ou vous avez peur de perdre? Peur d'un criquet? Lance un haltérophile aux biceps gros comme des pastèques. Tant pis pour la cérémonie d'ouverture, on relève le défi. Aussitôt, le car, avec tous ses occupants, rapetisse jusqu'à devenir de la taille d'un abricot. Max guide le chauffeur à travers les brins d'herbe. Les tiges de marguerite, larges comme des troncs de séquoia, sont particulièrement dangereuses. Enfin, il débouche dans une clairière. Un immense bâtiment en forme de cône s'élève vers le ciel. Le sommet disparaît dans les nuages. C'est Termitia, le stade olympique construit par les termites. Les passagers du car n'en croient pas leurs yeux. Oh, même les gratte-ciels de New York ne sont pas aussi hauts, s'extasie une sprinteuse. Une forêt d'antennes pénètre dans le stade. Au-dessus de la porte, les 5 anneaux olympiques ont été fabriqués par des araignées multicolores. « Hé, les humains, vous me suivez ?» crie le criquet à nos athlètes. À l'intérieur de Termitia, l'ambiance est hallucinante. 20 000 fourmis chantent en chœur, 50 000 scarabées et rhinocéros agitent leurs cornes en rythme, 1 million d'abeilles propulsent des poignées de pollen qui scintillent dans le ciel. L'écran central n'est pas composé de pixels, mais de coccinelles, qui se déplacent pour former des lettres et des chiffres. Soudain, le mot S-I-L-E-N-C-E s'affiche à l'écran. Alors, la première épreuve va commencer. Le sprint. Sur la ligne de départ ont pris place 3 hannetons tout en muscles. Une cigale élégante, 2 scarabées dodus et ventrus et 1 libellule. L'arbitre, une chenille rousse, crie dans un haut-parleur « À vos pattes, prêts, partez !» La sprinteuse humaine se propulse en avant de toutes ses forces. Mais à peine est-elle partie que la libellule a déjà parcouru la moitié du chemin. Sa vitesse est phénoménale, on dirait une comète. Lorsque la sprinteuse franchit la ligne d'arrivée, la libellule a déjà fini la course depuis longtemps. Elle a eu le temps de remercier ses parents et son entraîneur, et même de recevoir la médaille d'or. Épreuve numéro 2, le saut en hauteur. Le champion humain franchit la barre placée un peu au-dessus de sa tête. Une puce ronde et luisante s'élance à son tour et réussit un bond stupéfiant. Elle disparaît dans le ciel. Les coccinelles se déplacent sur l'écran central. Le résultat s'affiche en grandes lettres d'or. Puce ! Max s'assied à côté du sportif écœuré et lui explique. Dans la vraie vie, un homme mesure 1m80 et saute à 2m50. Une puce mesure 3 mm et bondit à 20 cm. « Justement !» proteste le sportif. « 20 cm, c'est rien !»« Ah ah ! Réfléchis ! La puce saute plus de 60 fois sa propre taille. C'est comme si un touriste atteignait le deuxième étage de la tour Eiffel en un seul bond. « La puce se dope !» crie le sportif. « C'est de la triche !» Ah, bah, si elle se dope, c'est de la modestie. D'ailleurs, aucune puce n'a jamais reçu un centime de la part d'un sponsor pour ses exploits. Épreuve suivante. L'haltérophilie. Le champion humain s'approche en dandinant ses biceps. Il se baisse, grimace, transpire, devient rouge comme un piment et finit par soulever une barre de 270 kilos. Un exploit unique. Une fourmi le remplace. L'haltérophile rigole en voyant la jolie demoiselle avec ses antennes interminables et sa robe rouge. On se croirait à un défilé de mode. D'une seule patte, fine et élancée, l'insecte soulève la même barre. « Tu fais pas le poids, petit gars !» rigole Max. Une fourmi est capable de soulever 20 fois son propre poids. 20 fois ? Mais alors, ça veut dire que si la fourmi avait la taille d'un homme, elle soulèverait 3 chevaux à bout de bras ? Se faire battre par une libellule, une puce et une fourmi, c'est dur pour le moral. Mais les humains comptent se rattraper avec l'épreuve suivante, le marathon. Il s'agit de courir 42 kilomètres. Quel insecte peut tenir une distance pareille ? Un marathon. Tonien et un papillon belle dame, aux ailes orangées et noires, partent en même temps. Le marathonien court sans s'arrêter. Ses mollets lui font mal et ses poumons le brûlent. À l'arrivée, il jette un coup d'œil derrière lui pour voir où le papillon est resté. « Coucou !» dit une voix à ses côtés. C'est mademoiselle belle dame. Elle se repose sur une chaise longue en sirotant un jus d'herbe. Elle a fini la course depuis longtemps déjà. Le marathonien est consterné. Eh oui, sourit Max, les papillons belle dame volent près de 4000 km chaque année. Ils voyagent de l'Islande au Maroc avec leurs petites ailes de 7 cm. Max donne une dernière chance aux humains. Si l'un d'entre eux parvient à le battre au saut en longueur, leur honneur sera sauf. Coup de chance, parmi le groupe se trouve la championne olympique en personne. Désormais, tous les espoirs reposent sur elle. Elle se concentre, s'élance et réussit un bond magnifique. Toute l'équipe la félicite. Sans aucun élan, le criquet saute par-dessus la piste, les athlètes et le car réunis. À l'échelle humaine, cela représente un bond de 60 mètres. Les coccinelles affichent le mot B-R-A-V-O, bravo, sur l'écran central. Des milliers de pucerons sautent dans tous les sens. Des nuages de papillons violets dansent dans le ciel azur. Et les grillons stridulent en frottant leurs ailes l'une contre l'autre. Face à une telle explosion de joie et de couleurs, les athlètes ne peuvent que se joindre à la fête. Ils valsent avec les cigales et dégustent des pétales de roses grillées. Le plus dur est de jouer à saute-mouton avec une puce qui fait des bonds de 120 mètres. Tout à coup, le chauffeur du car se souvient que l'équipe est attendue au stade olympique. Ils regagnent leur siège à toute vitesse. Hop, le car retrouve sa taille normale. Le chauffeur démarre en trombe, laissant derrière lui, Max et Termitia. À minuit, le car arrive enfin devant le stade olympique. Oh, qu'il semble petit et fragile en comparaison de celui bâti par les insectes.
« Où étiez-vous passé ?»
demande le directeur du stade très énervé.
« La cérémonie d'ouverture vient de se terminer, on vous attendait !»«
On a rendu une petite visite à de grands athlètes, » explique une joueuse de tennis.
« Les meilleurs athlètes du monde sont ici et nulle part ailleurs !» répond le directeur en se lissant les moustaches avec fierté.
Le directeur tourne les talons. Sa chaussure droite s'apprête à écraser une fourmi transportant une miette de pain.
Tous bondissent pour sauver le minuscule insecte. « Ah, qu'est-ce qu'il y a ?»
proteste le directeur qui n'a même pas remarqué la fourmi sur l'asphalte. « On vient de sauver une championne olympique. »
Le secret le plus fort du monde. Gaël Aymon, Pauline Comis, aux éditions du Ricochet. Il y avait un royaume. Dans ce royaume, il y avait un palais. Et dans ce palais, il y avait une reine. Dans ses mains, il y avait un secret. Le secret que personne ne connaît. Un jour, des bateaux sont arrivés par la mer. Dans ces bateaux, il y avait des guerriers. Et à leur tête, il y avait Bao le Terrible. Dans son cœur, une pierre dure et froide. Bao a dit à la reine, « Je suis l'homme le plus fort du monde. Là où je passe, il ne reste que des carcasses et des cendres. Tu seras ma femme et ton palais sera le mien. » La reine a réfléchi et lui a répondu, « Il y a plus fort que toi. C'est l'océan qui porte tes bateaux et dévore les falaises. Cela, tu n'en serais pas capable. L'océan est plus fort que toi. » Bao a serré les dents. Il s'est rendu sur la falaise. « Océan, on me dit que tu es le plus fort du monde. Viens me combattre. Je dois épouser la reine. » L'océan a répondu, sans le ruisseau qui descend des montagnes glacées pour me donner ma force, je ne serai qu'une petite mare. Oh, le ruisseau est bien plus fort que moi. » Bao s'est mis en route pour défier le ruisseau. Pendant 3 jours, il a longé l'océan jusqu'à un fleuve. Pendant 3 jours, il a longé le fleuve jusqu'à une rivière. 3 jours encore, il a longé la rivière jusqu'à la montagne. Un ruisseau dévalait entre les rochers. Bao a crié, « Ruisseau de la montagne, on dit que tu es le plus fort du monde. Viens me combattre. Je dois épouser la reine. » Le ruisseau a répondu timidement, oh, « C'est le nuage qui m'apporte la pluie pour apaiser ma soif. Sans lui, je n'existerai pas. Le nuage est le plus fort du monde. » Bao s'est agacé. « Ah, voilà qui est cocasse. Je vais aller donner une leçon à ce nuage prétentieux. » Il escalade la montagne. Il se blesse sur les rochers, mais il tient bon, car sa force est incroyable. Arrivé au-dessus des nuages où le soleil ne se voile jamais, Bao a crié, « Hé, nuage, si tu es le plus fort du monde, viens me combattre. Je dois épouser la reine. » Le nuage n'aime pas qu'on le réveille. Il est devenu noir et il a craché des éclairs. Bao n'a pas eu peur. Alors le nuage a grondé, « Pourquoi me déranger? Le plus fort du monde, c'est l'arbre. Lui seul se nourrit des rayons du soleil. Ses feuilles pleurent les larmes que le vent me porte et qui me donnent la vie. Il est plus fort que moi. Ah, si c'est l'arbre qui a fait le nuage, il est plus fort que je ne le croyais, » s'est dit Bao avec surprise. mais je vais lui apprendre qui est son maître. » Bao redescend la montagne. Il n'a ni faim ni soif. Il est trop fort pour être fatigué. Il est arrivé devant l'arbre. Un grand arbre, haut comme 100 soldats, et couronné de 1000 fleurs. Bao l'a frappé du pied. « Il paraît que tu fabriques les nuages ? Je suis le plus fort du monde. Viens te battre !» L'arbre ne l'a même pas regardé. Il a répondu calmement. « Je fais ma part de travail, c'est tout. Mais l'abeille est plus forte que moi. C'est elle qui fait pousser tous mes frères. C'est elle qui porte mes fleurs partout dans le monde. » Cette fois, Bao a ri très fort. « Ah, l'abeille, cette minuscule abeille que je vois là !» L'abeille est venue tourner autour de lui. Elle l'a regardé rire, et puis elle l'a piqué bien fort sur la joue. Bao s'est donné une grande claque, et il l'a écrasée. « Fini, plus d'abeille, juste une petite tache au creux de sa main. » Alors, Bao a repris la route vers la ville. Mais dans le lit de la rivière, il n'y avait plus qu'une minuscule rigole d'eau. Bao s'est retourné et il a vu que l'arbre était mort, ses feuilles tombées, ses fleurs fanées. Bao a levé la tête et il a vu que le nuage avait disparu. La pluie ne tombait plus sur la montagne. Il faisait nuit quand Bao est arrivé au palais. Mais au pied de la falaise, il n'y avait plus d'océan. Les bateaux de Bao étaient couchés sur le sable au milieu des poissons morts. Bao a montré l'abeille écrasée à la reine. Elle a soupiré tristement. « Hélas, vous êtes bien l'homme le plus fort du monde. » Dans le pays, il n'y avait plus d'eau. Le monde était comme un fruit sec. Les hommes, les bêtes et les arbres mouraient. Alors, Bao dut partir avec tous ses soldats pour sauver sa vie. Il était très fâché d'être vaincu. Mais finalement, il n'était qu'un homme. Une fois seul, la reine est partie dans la montagne. Elle a marché longtemps. Puis elle s'est agenouillée et a ouvert ses mains. Ses mains que personne n'avait jamais vues ouvertes. Dans la première, il y avait 2 petites fleurs. Dans la deuxième, il y avait 2 petites abeilles. La reine a planté les fleurs, elle y a déposé les abeilles. Et puis elle s'est couchée au pied de la montagne et s'est endormie. Elle a dormi longtemps. Lorsqu'elle s'est éveillée, 2 arbustes fleuris avaient poussé. Un nuage frêle s'enroulait autour de la montagne, la pluie en tombait à grosses gouttes, un minuscule ruisseau dévalait parmi les rochers. La reine l'a suivi jusqu'à l'océan, un tout petit océan, encore tout jeune, qui grandissait lentement. Partout le monde reprenait vie. La reine a regardé monter la mer et elle a souri. Dans son cœur, elle garde son secret. Le secret que l'homme le plus fort du monde ne connaîtra jamais.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.